France Musique. Vous écoutez France Musique, bonjour et bienvenue. Nous sommes le 27 avril, on ne se découvre toujours pas d'un fil. Et voici dans un instant et jusqu'à 9h, le très attendu Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain.
Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Roberto Alagna a participé ce week-end au gala virtuel du Metropolitan Opera de New York. À partir de ce soir, il est Don José dans Carmen sur le site de l'Opéra de Paris. Même confiné, le plus célèbre des ténors français chante donc grâce à Internet. Mais est-il inquiet pour l'avenir de l'art lyrique ? Roberto Alagna, c'est notre invité tout à l'heure vers 8h50. Autre invité ce matin, c'est le cœur gros que Jean-Pierre Rousseau a annulé, le festival Radio France Occitanie Montpellier. Il sera avec nous à 8h20. Et puis au programme également d'ici à 9h, toute l'actualité musicale, Classique Info avec Sophie Anastasio, rendez-vous à 8h40. Elles sont fermées depuis le début du confinement. Les librairies multiplient les initiatives pour fonctionner malgré tout, y compris les librairies musicales. C'est l'histoire du jour de Suzanne Gervais, ce sera dans une demi-heure. Et puis notre voix du jour, voix de France Musique, voix bien connue du matin, Saskia Deville a choisi pour nous un cha-cha-cha cubain.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique avec le grand Christian Zacharias, 70 ans aujourd'hui et toujours la classe.
Thank you.
Le plaisir du concert et des applaudissements qui nous manquent depuis quelques semaines pour ouvrir aujourd'hui Musique Matin, c'était le troisième mouvement, Allegro assai, de ce concerto pour clavier, cordes et basse continue en ré mineur de Carl Philipp Emanuel Bach. Christian Zacharias, dirigeant du piano, l'Orchestre National d'Auvergne, un enregistrement en concert capté en novembre dernier, il vient de paraître il y a quelques jours en numérique grâce au label créé il y a quelques mois par l'orchestre. Vous pouvez donc retrouver tous les grands moments des concerts de cette formation comme ça directement en ligne sur les plateformes musicales. Christian Zacharias, grand pianiste et chef d'orchestre allemand, il fête aujourd'hui ses 70 ans. Alles Gute zum Geburtstag, Christian Zacharias. Eux aussi sont allemands, mais ils ont moitié moins, 35 ans. Les musiciens du Concerto Köln ont fait de la musique du XVIIIe siècle leur répertoire de prédilection, de Vivaldi à Mozart, mais aussi avec toujours cette volonté de jouer des compositeurs beaucoup moins connus. Toute la semaine, dans En Piste, nos camarades Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier dressent le portrait musical du Concerto Köln. Rendez-vous dès 9h sur France Musique. Alors, parmi les partitions très peu jouées que l'ensemble allemand a mis à l'honneur, il y a la musique de Leonardo Vinci, compositeur napolitain, rien à voir bien sûr avec le peintre. Artaserse est son ultime opéra. Leonardo Vinci, il est créé en 1730, 3 mois seulement avant sa mort, sans doute d'ailleurs empoisonné avec du chocolat par un mari trompé. Vinci multipliait les conquêtes. Voici un air d'Artaserse avec Max-Emmanuel Cencik, un air qui forcément va vous réveiller. Voilà, ça décoiffe. Dis-moi à quel point tu es impie, dimike un empio sei, la musique de Leonardo Vinci, son opéra Artaserse, avec le contre-ténor Max-Emmanuel Cencik, le concerto Köln dirigé par Diego Fasolis, concerto Köln à l'honneur cette semaine à 10h30 sur France Musique. C'est dans la séquence les grands interprètes de la musique classique avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Comme tous les jours, nous avons rendez-vous avec une voix de France Musique, une voix bien connue de vous, auditeurs, auditrices, de nous tous. Aujourd'hui, c'est Saskia Deville qui vous accompagne habituellement le samedi matin, après l'avoir fait longtemps en semaine à cette heure-ci. Et Saskia a choisi ce matin de nous faire voyager, où ça ? Dans les Caraïbes.
Musique matin, à la maison.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous êtes en bonne santé, bien entourés et que vous profitez tout autant que moi de ces matinales portées par Jean-Baptiste, Sophia et Suzanne sur France Musique. J'ai choisi de partager avec vous ce matin un titre lumineux, un cha-cha-cha cubain de 1956, El Bodeguero, titre de l'Orquesta Aragón, mais ici chanté par Nat King Cole 2 ans plus tard, en 1958. Avec un accent espagnol à couper au couteau, Nat King Cole raconte ici l'histoire d'un caviste fort sympathique, dont le bar est toujours ouvert, un caviste qui danse le cha-cha-cha et qui sert du chocolat. Alors j'adore cette version, je l'écoute régulièrement au réveil, surtout depuis le confinement, dans ma salle de bain, histoire d'oublier un petit peu ces temps qui peuvent paraître longs. J'avais aussi envie de dédier ce titre à tous les intermittents du spectacle qui traversent un moment difficile, en espérant que le ministre de la Culture leur apportera de quoi vivre et rebondir, notamment d'ici la reprise des concerts et des festivals, car que ferions-nous sans musique et sans culture, je vous le demande. Prenez surtout soin de vous, restez à la maison et branchez sur notre chaîne préférée. Merci France Musique et merci Jean-Baptiste.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte ahí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya, el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
Toma chocolate,
paga lo que debes.
Toma chocolate.
El Bodeguero, un cha-cha-cha cubain sur la musique de l'Orchestra Aragón, chanté ici par Nat King Cole en 1958. Le choix ce matin de Saskia Deville. Saskia, dont je viens d'apprendre la naissance de sa petite fille hier soir, Héloïse. Donc on les embrasse, Héloïse. Bienvenue, Saskia et son papa Bruno. On vous embrasse tous les trois très fort au nom de tout France Musique. Alors ce confinement, c'est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de faire du ménage, mais aussi de retrouver des disques délaissés avec parfois pas mal de poussière, certains peut-être même jamais écoutés. C'est la même chose aussi pour les livres achetés ou offerts et jamais ouverts. Eh bien, c'est l'idée de notre camarade Lionel Esparza. Le ménage, ça je ne sais pas. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, il nous propose tous les jours sur France Musique, de 15h à 16h, son émission Relax, de chez lui, entre son piano et sa bibliothèque. Et ça commence tout à l'heure avec Alfred Cortot et son livre « La musique française de piano ». Dans cet ouvrage sorti en 3 volumes dans les années 30, puis réédité dans les années 80, le musicien analyse les œuvres de Ravel, de Saint-Saëns, de Fauré ou encore de Satie. Alfred Cortot, que voilà dans la musique du plus français des compositeurs polonais, Frédéric Chopin. C'est l'étude numéro 1 de l'opus 25. Alors ça gratouille un petit peu, c'est normal. On est en 1934.
Thank you.
harpe éolienne. C'est le titre donné à cette étude numéro 1 de l'opus 25 de Frédéric Chopin, son deuxième cahier d'études, la 13e étude si vous préférez. Un enregistrement de 1934 d'Alfred Cortot. Tout à l'heure, à 15h, Lionel Esparza consacre un portrait au pianiste. C'est dans son émission Relax 100% confiné.
France Musique.
Le festival Radio France Occitanie Montpellier n'aura pas lieu cet été. 165 concerts et événements qui étaient prévus du 10 au 30 juillet dans 60 communes, 80 lieux de la région. Bonjour Jean-Pierre Rousseau.
Bonjour Jean-Baptiste.
Directeur du festival, l'annulation a été décidée vendredi. Jean-Pierre, les grands festivals musicaux français, un à un, ont pris cette décision. Pour vous, elle était inéluctable après quand même y avoir cru longtemps malgré tout?
Elle était devenue inéluctable, non pas parce qu'il y avait une espèce de pression médiatique qui faisait que tout le monde avait décidé d'annuler, mais il y avait plein de raisons. Je ne critique absolument pas mes camarades à Avignon, à Aix ou à Orange. Bien au contraire, on a d'ailleurs été très solidaires les uns des autres. Mais quand vous organisez, ce que vous venez de rappeler, 165 manifestations dans 80 lieux différents, vous pouvez pas tout seul décider d'embarquer des centaines de musiciens, de techniciens sur une aventure incertaine. Parce que les collectivités locales, les maires, ont aussi des décisions à prendre. Et certains avaient d'ailleurs déjà anticipé cette annulation. Donc voilà, c'était devenu impossible même d'imaginer un festival en taille réduite, si on veut dire. Et comme on a en plus, je dirais, l'avantage considérable par rapport à beaucoup d'autres d'être structurellement, intimement lié à Radio France, on s'est dit avec Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, avec Marc Voinchet, le directeur de France Musique, qu'on allait peut-être pouvoir imaginer, sur les ondes, un festival un peu autrement. C'est à construire, et c'est ce qu'on va faire pour les semaines qui viennent. On va pas seulement rediffuser, on va peut-être créer des choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont créer pour le festival, enregistrer, pourquoi pas, le récital ou un extrait de ce qu'ils auraient dû produire pendant le festival 2020. Et peut-être qu'on va se retrouver avec une offre finalement pour l'auditeur extrêmement riche. Bien sûr, ça ne remplacera absolument pas le contact dont tous les artistes ont besoin, dont le public a besoin, qui est ce contact direct dans une salle de concert ou en plein air, mais ce qui fait vivre la musique, ce qui fait vivre la culture.
Jean-Pierre Rousseau, quelles sont les conséquences de cette annulation pour le festival, conséquences économiques, et puis est-ce qu'on va reprendre l'édition, la programmation 2020 et la mettre en 2021? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui est possible?
Il y a déjà plusieurs grandes opérations qui étaient prévues en 2020 qui sont d'ores et déjà reportées en 2021. Mais je ne peux pas garantir que tout sera reporté à l'identique. Maintenant, les conséquences, elles vont être terribles, pas tellement pour le festival Radio France qui est un beau grand festival qui est soutenu à fond par les collectivités qui le supportent. Je pense évidemment en premier lieu à la région Occitanie, mais aussi à Radio France, mais aussi à la métropole de Montpellier. Je pense beaucoup plus à tout ce tissu de plus petits festivals avec lesquels d'ailleurs le festival Radio France a l'habitude de travailler, qui eux risquent de ne pas se remettre de la crise. Parce que aujourd'hui, tout le monde fait des promesses. Le gouvernement, les collectivités locales disent oui, c'est bon, on va vous soutenir, on va vous aider à passer le cap difficile. Entre nous, je ne sais d'ailleurs pas comment certains vont le passer. C'est quand même des artistes, des musiciens, des intermittents qui n'ont rien. Tout est annulé. Rien avant, rien pendant et rien après. C'est pas dans ma nature d'être pessimiste, mais je crains qu'en 2021, lorsqu'on va voter les budgets 2021, on se dise ici et là, et sans doute partout, que finalement la culture passera après le reste d'un tissu économique, social qui va être gravement déchiré, atteint. Sauf que on oublie que la culture, sans culture, on n'aurait pas survécu à ce confinement. Si on entend sur France Musique, si on voit sur l'ensemble des chaînes de services publics et d'autres, autant de représentations d'opéra, de théâtre, c'est parce que des artistes, c'est parce que des musiciens les ont produits, que ça a été enregistré. Si demain, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus de festivals, on fait comment? Moi, je suis assez pessimiste de ce point de vue-là, pas tellement pour les médias, plus pour l'avenir, les 12 ou 24 mois qui viennent.
D'ailleurs, Jean-Pierre Rousseau, sur votre blog, on vous connaît pour votre franc-parler aussi, vous interpellez le ministère de la Culture dont le silence est assourdissant, ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Mais déjà, j'aimerais au moins, alors ça va peut-être venir en effet demain, lorsque le Premier ministre va s'exprimer devant l'Assemblée nationale, qu'on nous dise un peu ce qui se passe, ce qu'on doit faire. Ça fait des semaines qu'on interpelle le gouvernement en disant au moins dessiner une perspective. Mais dire, comme le président l'a fait, avant le 15 juillet, c'est pas possible, après peut-être, ça met tout le monde dans un état d'incertitude absolue. Ça ne rassure pas, évidemment, les acteurs culturels, ça ne rassure pas tous ceux qui contribuent à faire de la culture, et puis ça ne rassure pas les publics. Donc, avoir un discours clair, avoir une réponse claire. J'ai entendu beaucoup de mots de la part de notre ministère de la Culture, et pas beaucoup d'actes pour l'instant. Donc j'attends des choses précises, parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement préserver ce que certains considèrent peut-être comme le petit milieu de la culture, ces artistes, n'est-ce pas, qui sont riches à millions, c'est faux, archi faux. Il y a tout un tissu culturel, économique, tous ces intermittents du spectacle, ils font quoi? On les laisse crever? On fait comment, très concrètement? Ben, il faut prendre des mesures pour que ce qui a été fait en matière de chômage partiel pour les salariés, du privé comme du public, soit adapté à la situation de ceux qui concourent au bien-être culturel, simplement à la diffusion de la culture dans notre pays.
Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rousseau. Le festival Radio France Occitanie-Montpellier qui vivra donc cet été autrement et notamment grâce à France Musique qui fêtera malgré tout ses 35 ans, ce festival. Merci, Jean-Pierre. Un festival qui aurait dû se clore avec l'Orchestre Symphonique de Barcelone. Le voici, cet orchestre dans la musique de l'Espagnol Rodoreda. Merci, Jean-Pierre Rousseau.
Merci.
Il n'y a pas que Ravel qui a déployé toutes les palettes orchestrales pour exprimer en musique le lever du jour. Ici, c'était le lever du soleil, Sortida del Sol, premier mouvement du poème symphonique Le Printemps du compositeur espagnol Josep Rodoreda. L'orchestre symphonique de Barcelone était dirigé par Jaime Martín. Vous écoutez France Musique, c'est Musique Matin à la maison. Dans 20 minutes, nous irons chez Roberto Alagna. Comment le plus célèbre des ténors français envisage-t-il ses prochains mois à l'opéra? Il sera notre invité à 8h50. Quand le quatuor Modigliani se trouve quatre amis, ils peuvent jouer l'octuor de Schubert. C'est un disque qui vient de paraître, extrait à 9h moins le quart. Toute l'actualité musicale, c'est Classique Info avec Sophie Anastasio et c'est dans 10 minutes. Mais pour l'heure, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne, alors on commence la semaine avec une initiative, elle pourrait bien venir en aide aux librairies musicales.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors que le commerce en ligne fonctionne à plein régime ces semaines-ci, les librairies indépendantes qui sont fermées depuis le 15 mars multiplient les initiatives pour tenter d'endiguer l'hémorragie financière pour survivre tout simplement au confinement. Certaines à Paris et dans des petites villes livrent à domicile et ça marche du tonnerre. D'autres mettent en place des systèmes de précommande ou de bons d'achat. On estime qu'il existe 3000 librairies indépendantes en France qui font face à la concurrence des géants du web, vous pensez comme moi Amazon bien sûr. Et parmi ces librairies, il y a des dizaines et des dizaines de librairies musicales qui vendent des partitions neuves et d'occasion parfois, des ouvrages sur la musique et du matériel de papeterie pour musiciens. Ces librairies musicales, elles sont peut-être encore plus fragiles que les librairies généralistes. Souvenez-vous, le dernier magasin de partitions de musique classique de New York, à court de clientèle après 78 ans de bons et loyaux services, avait fermé ses portes en 2015, dépassé par les sites de vente en ligne, ce qui avait fait grand bruit chez nous à l'époque. Alors nous n'en sommes pas encore là, enfin. France et c'est possible en ce moment de soutenir nos librairies indépendantes grâce à la plateforme www.jesoutiensmalibrairie.com qui permet à chacun de soit donner un coup de pouce à son libraire de proximité en participant à une petite cagnotte, en achetant un bon d'achat à utiliser dès la réouverture, soit de proposer un établissement à secourir. Et pour que les librairies musicales ne soient pas oubliées, j'invite musiciens et mélomanes à ne pas hésiter à signaler la leur sur la plateforme. Et puis qui sait, cette absence des librairies dans nos vies donnera peut-être envie, une fois le confinement levé, d'aller fouiller de plus belle dans les bacs de partitions, neuves ou d'occasion pour faire des découvertes, trouver des nouveautés ou dénicher des raretés.
Suzanne Gervais, une initiative à retrouver sur francemusique.fr comme tous les jours dans la rubrique Musique connectée. À demain Suzanne. C'est un livre paru juste avant le confinement dans Mouvement perpétuel. Renaud Capuçon raconte ses souvenirs et selon les mots de Bernard Pivot hier dans le journal du dimanche, le violoniste y fait un merveilleux éloge de la musique. Ce sont ses mots de ses sortilèges et du métier de soliste. Quelques pages avant, dans le même quotidien, le journal du dimanche, donc le musicien prend la plume cette fois pour une tribune dans laquelle Renaud Capuçon appelle le gouvernement à éclairer les artistes sur leur futur proche. Il ne nous paraît pas plus dangereux d'assister à un concert dans des conditions sanitaires strictement appliquées, écrit le violoniste, que de nous rendre par exemple dans un supermarché. Renaud Capuçon, le voici dans la musique d'un film adapté d'un livre, Breakfast at Tiffany's. Le film était signé Blake Edwards d'après Truman Capote. Moon River, la musique d'Henry Mancini pour Diamant sur Canapé, Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards avec Audrey Hepburn. Ici, Renaud Capuçon était accompagné par le Brussels Philharmonic, dirigé par Stéphane Deneuve. Il y a quelques minutes, ici même, Jean-Pierre Rousseau évoquait les conséquences de l'annulation du festival Radio France Occitanie-Montpellier, ses conséquences notamment pour les plus petits festivals de la région. Eh bien, parmi eux, il y a celui qui, depuis 50 ans, fait résonner de la musique dans la superbe abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. C'est Monique Bernat qui a fondé cette saison musicale. Elle en a été la directrice artistique pendant 30 ans. Monique Bernat qui vient de mourir. Parmi les nombreux, très nombreux musiciens invités à jouer dans cette abbaye, Scott Ross, voici un extrait d'un concert enregistré dans la chaleur de l'été 1986. Le claveciniste américain jouait Jean-Philippe Rameau. Le Vésinet, une pièce pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, Scott Ross en concert en 1986 dans l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault, dont la fondatrice de l'association musicale, de cette saison musicale, Monique Bernat, vient de s'éteindre. Vous écoutez France Musique, c'est l'heure de Classique Info. Avec Sophia Anastasio, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Le festival Radio France Occitanie Montpellier a donc dû se résoudre à annuler son édition prévue du 10 au 30 juillet prochain. Son directeur Jean-Pierre Rousseau était à l'instant dans Musique Matin sur notre antenne. Malgré la peine suscitée par cette annulation, il a déclaré que le festival pourra vivre autrement grâce aux liens qui l'unissent à Radio France, France Culture et France Musique. De nouveaux rendez-vous numériques sont également à l'étude, pas seulement des rediffusions, a-t-il ajouté. Plusieurs programmes sont déjà reportés à l'année prochaine. Et par ailleurs, la région Occitanie a annoncé le maintien et le versement des subventions déjà votées ou qui le seront avant le 30 juin, même si les événements ne peuvent pas avoir lieu. Un fonds d'aide de 5 millions d'euros a été débloqué pour soutenir les festivals, annonce sa présidente. Le comité social et économique de l'Opéra de Dijon a publié une lettre ouverte pour dénoncer la situation critique que traverse l'institution. Sans directeur ni directrice nommée pour janvier prochain, l'Opéra réclame la garantie d'un concours de recrutement et le maintien de ses emplois de manière pérenne. Nous voulons, peut-on lire, le maintien de la place de l'Opéra de Dijon dans le paysage lyrique national et européen. L'English National Opera envisage d'organiser des représentations en drive-in, des spectacles auxquels le public pourra assister depuis sa voiture, comme dans l'Amérique des années 60, mais aussi sur son vélo. Les représentations seraient organisées dans le parc de l'Alexandra Palace, situé au nord de Londres, avec sur une scène spécialement construite des chanteurs et des musiciens respectant les distances sociales de sécurité. Les premières représentations sont prévues début septembre avec une version abrégée de la Bohème. Également dans l'actualité, la compositrice autrichienne Olga Neuwirth va recevoir le prix Schumann pour la musique et la poésie 2020. Décerné par l'Académie des sciences et de la littérature de la ville de Mayence, en Allemagne, ce prix est doté de 15 000 euros. Les danseurs et les danseuses de l'Opéra de Paris proposent des cours de danse en direct sur le compte Instagram du Ballet de l'Opéra de Paris. Ils ont démarré vendredi dernier avec Hugo Marchand, prochain rendez-vous ce jeudi avec Eleonora Abagnato, suivi de Dorothée Gilbert ou encore Germain Louvet.
Classique Info, Sophie Anastasio, à retrouver sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité Musicale. À demain, Sophia. Alors, 4 plus 4 égale... Non, il n'y a pas de piège, égale 8. Les 4 instrumentistes du quatuor Modigliani ont convoqué 4 amis musiciens, la clarinettiste Sabine Meyer, le cordiste Bruno Schneider, le bassoniste Dag Jensen et le contrebassiste Knut Erik Sundquist. À 8, ils ont enregistré l'octuor de Franz Schubert. Le disque vient de sortir en numérique chez Mirare. Le compositeur s'inspire vraisemblablement du septuor de jeunesse de Beethoven. Il le dépasse aussi, sans aucun doute, pour cette œuvre de musique de chambre qui est même plus que cela, comme un petit concerto qui met en particulier en valeur la clarinette et le cor. Voici le scherzo de l'octuor de Franz Schubert.
Thank you.
Franz Schubert, le troisième mouvement scherzo de son Nocturne pour quatuor à cordes, clarinette, basson, cor et contrebasse avec le quatuor Modigliani, Sabine Meyer, Bruno Schneider, Dag Jensen et Knut Erik Zundquist. C'est un disque qui vient de paraître chez Mirare, disponible sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Vous écoutez France Musique, c'est Musique Matin. À la maison, il est l'heure de rejoindre notre invité.
Musique Matin à la maison. Musique.
Et ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le grand Roberto Alagna. Bonjour Roberto.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Musique. Alors, vous auriez dû chanter en ce printemps à Londres, Payas de Leon Cavallo, puis à La Scala, à Munich en juillet. Roberto Alagna, d'abord, cette période inédite pour nous tous. Vous, comment vous la vivez, ce moment où tout s'arrête, qui plus est quand on est un artiste comme vous avec un agenda très chargé d'habitude?
Bah écoutez, c'est un peu étrange comme situation. C'est une situation que je n'ai jamais connue, puisque en fait, je n'ai jamais passé autant de temps à la maison. Donc quelque part, c'est quand même assez plaisant, puisque j'ai l'impression de vivre un peu une retraite. Mais en même temps, c'est un petit peu angoissant, parce qu'on se demande comment ça va repartir, qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai que tous ces mois sans travailler, ça fait quand même économiquement des petits troubles qu'il va falloir comblé, hein. Donc voilà, je pense. Et encore, moi, je me considère comme quelqu'un de privilégié parce que j'ai quand même beaucoup de travail, j'ai quand même des cachets qui sont pas mal. Mais je pense surtout à mes collègues qui eux ont des difficultés, qui ont pas beaucoup de travail, qui ont des petits cachets, des petits moyens. Je pense que ça va mettre en difficulté pas mal de monde. Ouais.
Vous avez participé samedi dernier avec 40 autres chanteurs et notamment Alexandra Courjac, votre épouse. Vous avez participé donc avec beaucoup d'humour d'ailleurs au gala virtuel du Metropolitan Opera New York qui avait notamment pour but de lever des fonds. Est-ce que vous êtes inquiet comme d'autres pour l'avenir de l'art lyrique ?
En fait, je suis pas inquiet pour l'art lyrique parce que l'art lyrique c'était un art qui est intemporel, qui est éternel, j'ai envie de dire, c'est que c'est un art qui est toujours populaire, qu'il sera toujours. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout pour les artistes solistes, parce que j'ai peur que cette nouvelle crise due au coronavirus va accentuer les choses. On va encore presser comme des citrons les artistes solistes qui au contraire, ne sont pas tellement aidés. Et voilà, c'est ça qui m'inquiète.
Alors, il y a une date très attendue, c'est le Carmen du Stade de France en septembre. J'imagine que pour l'heure, vous ne savez pas du tout si ça va pouvoir avoir lieu ou si ce sera reporté, Roberto Alagna.
Bah, pour le moment, je pense que on nous a dit que c'était encore maintenu. Alors, si ce virus se termine bientôt, là, dans les semaines qui suivent, alors là, ce sera peut-être possible de faire ce spectacle, j'espère. Mais en tout cas, c'est juste une fête qui est repoussée parce que déjà avec les producteurs, nous sommes déjà en train de chercher des dates pour pouvoir reporter au cas où il y aurait une annulation. Donc je pense que la fête aura lieu de toute façon.
La fête, elle continue, Roberto Alagna. On peut vous écouter chanter, ce sera le cas ce soir et jusqu'au 3 mai. À l'Opéra de Paris, mais en ligne, dans cette production de 2017 de Bastille, mise en scène par Calixto Bieto. C'est important pour vous que quasiment toutes les maisons d'opéra dans le monde, on parlait du Met samedi dernier avec le gala virtuel, qu'elles continuent toutes de diffuser de cette façon leur spectacle en numérique.
Oui, oui, bien sûr, ça c'est formidable, parce que moi j'ai toujours aimé ce genre d'événement. J'ai été pour les retransmissions en direct du Metropolitan dans les cinémas, Je pense qu'il faut utiliser vraiment la technologie moderne pour notre art aussi, parce que ça prouve que l'art lyrique est vivant. Et puis, c'est ce qui donne la popularité aussi à cet art, qui est souvent considéré comme élitiste. Et je pense que c'est une erreur de le considérer, l'opéra, comme quelque chose d'élitiste. Au contraire, c'est de la musique populaire de son temps et c'est la musique populaire d'aujourd'hui. Et je dois dire que l'opéra n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, grâce à cette technologie, grâce au streaming, grâce au cinéma. Et là, on le voit dans des moments difficiles comme ça de confinement, on voit que les gens ont besoin de voir des spectacles, ont besoin de cette interaction avec les artistes, avec les théâtres. Et donc, moi, je suis content de vivre cette époque où on a cette possibilité-là. Même avec la famille, avec les gens qu'on aime, on a le moyen de se voir grâce à la technologie moderne, alors qu'avant, il fallait juste entendre une voix au téléphone. C'est ce qui s'est passé, moi, avec ma première fille. Quand je partais au loin, j'entendais sa voix, mais quand je la voyais au bout d'un mois, ben, elle avait évolué et j'avais perdu des tas de moments qui étaient très importants pour moi. Aujourd'hui, on a cette technologie, on se voit tous les jours, on peut avoir un contact qui est un contact aussi visuel et ça, c'est très important.
Pour finir, Roberto Alagna, en ce moment, vous écoutez beaucoup de musique, vous écoutez quoi? Vous travaillez peut-être?
Ben, écoutez, en ce moment, je travaille bien sûr, j'avais travaillé donc le rôle de Loris Ipanov pour Fedora, puisque je devais le chanter à la Scala, et c'était mon retour à la Scala, donc j'étais ravi. Cette œuvre est magnifique, en tout cas, ça, c'était la première fois que j'avais autant de temps pour préparer un rôle, donc c'était assez formidable. J'ai aussi peaufiné mon Lohengrin, que je n'avais pas pu faire à Bayreuth, et que je vais faire à la rentrée, espérons en tout cas que le virus ne va pas continuer jusque-là. Alors je travaille, j'écoute beaucoup de musique, mais aussi je lis pas mal de partitions, puisque j'ai beaucoup de partitions à la maison que je n'avais jamais eu le temps de lire, et là je profite d'être à la maison pour pouvoir lire ces partitions, mais en même temps, je vis un peu comme tout le monde. C'est ce qu'on essaie de montrer aussi au public qui nous suit à travers les réseaux sociaux. On essaie de montrer notre quotidien, des scènes de vie comme ça, en faisant la cuisine, en faisant du barbecue, en étant avec notre enfant. Alors moi, je lui fais l'école aussi. Voilà, donc je suis en même temps content de ça. Et avec Alexandra, on travaille aussi de notre côté. On fait des choses, on essaie de nouveaux duos, de nouveaux rôles. Voilà, c'est une vie bien remplie en tout cas.
Merci beaucoup Roberto Alagna. On vous retrouve donc dans Carmen en septembre au Stade de France, ou plus tard, on verra. On vous retrouve en tout cas, c'est sûr, dans Carmen ce soir sur le site de l'Opéra de Paris.
Voilà.
On se quitte avec Georges Bizet, mais pas Carmen, cet air des pêcheurs de perles, la célèbre romance de Nadir, mais en italien avec Yvan Cassar au piano. C'est sur votre dernier disque et album Caruso.
Oh, merci.
Ça vous va?
Oh, j'adore.
Eh bien, le voici, cet air. Merci, Roberto.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Mi par du dire ancora ascoso in mezzo ai fior la voce sua canora sospira. Oh.
Les pêcheurs de perles, Georges Bizet, la romance de Nadir, en italien, Roberto Alagna, avec Yvan Cassar au piano, extrait de son dernier album, Caruso. Roberto qui nous disait, en antenne, qu'on peut aller voir sur Internet l'interprétation de Caruso, de ce même air, et comparer avec ce que Roberto a fait pour cet album, avec même une prise de son ici, vous l'avez entendu sans doute à l'ancienne, comme à l'époque. Voilà, c'est la fin de Musique Matin à la maison. Loïc Duros c'était à la technique, Sophie Pichon à la réalisation, Marion Guillemet avec Taïsia Froidure, Margot Muller et Pauline Boisaubert à la coordination. Dans un instant en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier et cette rivalité réelle ou imaginaire entre Mozart et Salieri. Très bonne journée sur France Musique et à demain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.